Sébastien Roch. Première partie, chapitre 4. Deux années s'écoulèrent. De la cour des petits, Sébastien avait passé dans celle des moyens, où l'existence avait été la même. Il ne s'était pas accompli au collège d'autres événements importants que le renvoi simultané de quatre élèves, attribués à des causes malpropres, dont on chuchota entre soi à mots couverts et indignés. Et puis, la disparition soudaine des demoiselles Le Toulic. Sébastien eut quelque mélancolie à ne plus les voir le soir, sur la place avec leur mère, en rentrant des promenades. C'était pour lui une douceur que cette présence jumelle, laquelle donnait à ses rêves, encore incertains, un corps tangible et charmant, une émotion à sa jeune chair, s'éveillant à la clarté chaste de l'amour. L'une, hélas, était morte de la poitrine, l'autre avait été enlevée par un officier. Ces drames successifs firent longtemps jaser, et le malheureux Le Toulic, plein de honte et de chagrin, se tint davantage à l'écart de ses camarades, le front couturé de plis plus durs, les doigts plus salis d'encre, presque bossu le pauvre petit diable, à force de se pencher sur ses livres sans relâche. Quelques-uns, jaloux de ses succès, se moquèrent de lui, lâchement, cruellement. Personne d'ailleurs, à l'exception de Sébastien, ne le plaignit, car il n'était pas très riche, ni adroit au jeu de pommes, ni gai. D'ailleurs, on savait que les jésuites l'élevaient pour rien. Mais il ne prêta aucune attention à cette indifférence et à ces insultes. Silencieux, solitaire, il redoubla d'acharnement au travail. Sébastien transporta donc ses habitudes, ses enthousiasmes, ses dégoûts, d'une cour à l'autre, et ce fut tout. Il continua de faire son unique intimité de Bolorec, dont l'adresse à sculpter progressait, et qui rêvait toujours à incendie du collège et massacre des jésuites. Même promenade aux mêmes endroits, le long des grèves, ou sous les roches éboulées de la grotte du roi Jean. Même périodique fête, même devoirs accablants et ennuyeux, auxquels il ne pouvait s'assouplir. Pourtant, les trois années qu'il venait de vivre parmi ce petit monde, dressé à l'intrigue et à l'hypocrisie, lui apprirent à ne plus montrer, tout nu, ses sentiments et sa pensée. Il sut dissimuler ses joies comme ses souffrances, avec une pudeur avare et jalouse, ne plus jeter à la tête de chacun les morceaux saignants de son propre cœur. Sans devenir méfiant ni compliqué, il surveilla davantage ses paroles et ses actes, surtout auprès de ses maîtres, car les quelques élans qu'il avait eus vers eux ne lui avait valu qu'un soulagement momentané, des promesses vite changées en duperie. Il en voulut au père de Marelle de lui avoir un instant entrebâillé la porte des paradis rêvés et de l'avoir ensuite, sans raison, brutalement refermé sur ses espoirs émerveillés. Dans l'impossibilité où il était de continuer ses leçons de musique et poussé par une force intérieure, dominatrice, à étreindre, à exprimer, à matérialiser, pour ainsi dire, ses aspirations, bien vagues certes, et bien irrésistibles aussi, vers l'idéal conquête des harmonies et des formes, il retrouva dans le dessin un aliment à ses ambitions, et il s'y passionna. Un externe lui apportait en cachette des modèles dérobés à la maison, têtes aux traits nets et fins, muletiers espagnols aux mollets bombés, profil de dieu mythologique, buste lauré d'empereur, vierge drapée de voiles aux plis symétriques, figure biblique soutenant des amphores, arbre aux classiques embranchements. Défendu contre le regard inquisiteur du maître d'études par une pile de livres, un rempart de dictionnaires, il copiait ses dessins naïvement, séduit surtout par les formes plus accessibles de beauté inexpressive et jolie, de beauté régulière, aimant dans les physionomies ce qui se rapprochait le plus de l'expression religieuse conventionnelle. Les larges yeux arqués, aux extases vides, les bandeaux plats, les contours lisses, les ovales allongés et les plis maniérés. Souvent, on lui confisquait ses modèles et ses maladroits essais. Alors, il tentait de les reconstituer par le souvenir, car il avait une mémoire véritablement surprenante, la mémoire des formes. Cette privation de modèles et la difficulté de s'en procurer de nouveau ne le décourageaient pas. Il s'ingéniait à reproduire ce qui, dans ses promenades, l'avait le plus frappé, de préférence des choses de santé et de joie. Ne comprenant pas encore la poésie de ce qui est vieux, courbé, chétif, de ce qui s'efface, de ce qui se voile, ni la tristesse des pierres et des vastes espaces dénudés, ni la maigreur jaune, ossifiante, que la misère creuse sur les visages de douleur. Il ne sentait pas encore l'émotion généreuse et haute, ni la sublime beauté du lait. À la même époque, circulaient dans la cour des cahiers de vers défendus, des livres proscrits qui l'enthousiasmèrent. Il apprit par cœur des strophes et des phrases qu'il récitait à Bolorec avec ivresse durant les récréations et les promenades. « Pour les pauvres » de Victor Hugo lui parut un chant céleste, une divine musique, un rayon de charité jailli du cœur même de Jésus. Quelques hémistiches des iambes de Barbier l'enflammèrent d'une ardeur de bataille, violente et contenue, ce qui fut comme la révélation d'un monde, du monde éblouissant vers lequel ses instincts l'avaient toujours emporté, et qu'il croyait chimérique, inaccessible à la lourde étreinte de l'homme. Pourtant, il existait réellement ce monde. Là seulement était la vérité. Là résidait la vie souveraine. Son esprit venait d'en recevoir des éclaboussures de lumière. Quelle différence entre cette langue chaude, colorée et vibrante qui laissait dans l'air des résonances de harpe et des fanfares de clairon, dont chaque mot vivait, palpitait, battait des ailes, dont chaque idée correspondait à un cri humain, cri d'amour et cri de haine. Et la langue froide, rampante, rechignée de ces livres de classe, où les mots asservis et les idées maussades semblaient postés devant ses désirs de connaître, de sentir, de s'élever, comme les gardiens revêchent, défendant l'entrée du parc sonore et fleuri, du parc où sont les fleurs splendides, où sont les subtils oiseaux, où l'on voit les radieuses fuites de ciel entre les branches balancées. Cette découverte, cette illumination soudaine du verbe, lui rendirent plus pénibles ses devoirs. Pour les oublier mieux, pour les mieux supporter, il copia des vers et il dessina davantage. Surpris parfois de retrouver, entre l'ordonnance des lignes dans le dessin et la cadence des rythmes dans les vers, des analogies mystérieuses, et d'identiques lois. Les confiscations réitérées de ces barbouillages et de ces cahiers, les arrêts, les mises au pain sec fréquentes, ne le rebutaient pas, ajoutaient au contraire à sa jouissance l'excitant de la persécution. Cependant, il eut un jour un étonnement. Comme la récréation finissait, le père de Kern, son maître d'études, vint à lui et lui remit ses cahiers. C'était un prêtre joli, aux yeux obliques et langoureux, à la démarche un peu lente, et dont les gestes avaient des inflexions molles de nonchaloir, presque de volupté. Il se pencha sur Sébastien, de façon à effleurer de son souffle le jeune visage de l'élève, et d'une voix suave. « Je vous les rends, » dit-il, « mais cachez-les bien pour que je n'aie pas à vous les reprendre. » Puis il considéra Sébastien d'un regard trouble, où des flammes passaient, vite éteintes sous le voile clignotant des paupières. Ce regard gêna Sébastien, d'instinct, et le fit rougir comme s'il avait commis une faute secrète. Mais il n'eût pu dire pourquoi. Sébastien avait grandi. Ses traits s'étaient affinés en une maigreur rose, d'un rose pâle de fleurs renfermées. Son visage, à ce moment de l'adolescence indécise, prenait des grâces de femme, et ses yeux très beaux restaient mélancoliques, veloutés et profonds. À Pervenchères, il y avait eu bien des changements. La tante Rosalie était morte, sans laisser de testament. Cette nouvelle qu'il apprit tout à coup par une lettre de son père ne causa qu'un chagrin relatif à Sébastien. Il n'aimait guère sa tante, dont il ne recevait que des bourrades. Pourtant, la dernière fois qu'il l'avait vue, il s'était ému. La vieille fille, couchée, immobile, le menton levé et garni de poils rudes et blancs, les yeux couverts de paupières molles comme d'été, ne l'avait pas reconnue. Elle ne parlait plus, restait insensible à tout ce qui se passait autour d'elle. On l'eût dit morte si un bruit de glouglou, le dévidement régulier d'un petit râle, n'eût soulevé de temps à autre les ailes de ses narines, d'un mouvement de vie mécanique et localisé. Et près de son lit, des vieilles étaient penchées, avides et géniardes, horribles guetteuses de la mort. Ce fut surtout ce souvenir qui l'impressionna. Quant à M. Roch, qui n'avait pas compté sur cet héritage, il montra une affliction digne, proportionnée aux 4 000 francs de rente qui lui tombaient du ciel, inopinément, et jugea le moment bon pour se retirer du commerce. Il eut la chance de vendre son fonds de quincaillerie d'une manière avantageuse, fit bâtir une maison dans le jardin, auquel il ajouta des grottes artificielles, un bassin où nagèrent des poissons rouges, et çà et là, sur des éminences gazonnées, des boules de verre coloriées. Il vécut en parfait bourgeois et s'ennuya. Maintenant, il était maire de Pervenchères, suppléant du juge de paix, ambitionné sourdement de se faire élire conseiller d'arrondissement. Mais malgré la multiplicité et la nouveauté de ses occupations, il ne se trouvait pas heureux, dans cette maison neuve, si vide, qui n'avait pas d'autres voisins que les morts du cimetière. Un vieux fond d'habitude commerciale le ramenait à son ancien magasin, et tous les jours pendant 2 heures, il s'asseyait près du comptoir, les jambes écartées, les deux mains croisées sur la paume de sa longue canne. Et là, autoritaire et bienveillant, il s'intéressait aux mouvements des affaires, donnait des conseils, pérorait sur toute chose intarissablement. Un jour, il éprouva le besoin de se créer un intérieur, de se faire de la vie autour de lui, c'est-à-dire des êtres à qui il put confier ses désirs secrets, ses ambitions, ses projets de réforme municipale. Sérieusement, il songea à se remarier. Madame Locotel lui plaisait beaucoup. Elle avait de belles manières, une instruction soignée, et il ne pouvait souhaiter rien de mieux quand, par exemple, il recevait à sa table le préfet en tournée de révision. Et puis, ce n'était pas une mince gloire que de succéder, dans le cœur d'une femme, à un général de brigade. Après avoir pesé le pour et le contre, il se décida à demander la main de sa belle locataire. « Je crois, lui dit-il, que les convenances sont absolument sauvegardées. Vous êtes veuve, je suis veuf également. Votre premier mari était général, moi je suis maire. Ce ne serait donc pas pour vous une déchéance. J'ai une certaine fortune, honorablement gagné dans la métallurgie ? Et quant à mon âge, ajouta-t-il galamment, ne vous en effrayez pas, j'ai vécu toute ma vie à l'abri des passions. Certes, je ne suis plus un jeune homme, ce que j'appelle. Mais enfin, d'ailleurs, vous le verrez vous-même. Au refus poli que lui opposa Madame Locotel et que l'ancien quincaillier prenait pour de l'embarras pudique, il répondit « Ça ira très bien, je vous assure. Mon Dieu, je le sais, à nos âges, on ne pense plus guère aux folies. Mais enfin, un petit regain de temps en temps, cela ne peut qu'embellir la vie. Et puis, vous n'êtes pas riche. Je m'arrangerai pour vous faire une gentille dotation, sans trop léser les droits de mon fils. Voyons, réfléchissez. Puis-je vous appeler Madame la mairesse ? » Madame Locotel fut obligée de les conduire plus nettement. Il s'en montra dépité et, quelques semaines, il lui garda rancune. « Si elle s'imagine qu'elle en aura à la douzaine des mères comme moi, récriminait-il souvent. Un maire, c'est un général aussi, un général civil. » Alors, pour se distraire, il eut une héroïque, extravagante idée que lui avait sans doute suggéré le voisinage de la mort. Il acheta au milieu du cimetière, dans l'axe même de la grille d'entrée, un vaste terrain qu'il entoura d'abord d'une rampe en fonte, basse, figurant des enguirlandements d'immortelles et de roses. Puis il fit creuser un caveau profond à un seul compartiment, car, expliquait-il, « à quoi bon exhumer ma femme ? Elle est très bien dans sa concession. Et quant à Sébastien, qui sait où il mourra ?» Le caveau creusé, maçonné, dallé, il fit élever une sorte de monument funéraire, carré, en granit d'Alençon, semblable de forme à une grande malle dont le couvercle serait bombé. Il ne voulut aucun ornement, aucune moulure, aucun attribut symbolique. « Un tombeau de verre, comme Socrate, disait-il. Du confortable, mais pas de luxe, ce que j'appelle. » Sur une des faces latérales en bas était ménagée une ouverture, pareille à une large chatière, et destinée à l'intromission du cercueil. Monsieur Roch surveillait les travaux, les dirigeait avec une indiscutable compétence d'architecte et une sérénité de philosophe imperturbable. Il interrompait parfois ses conseils techniques par des aphorismes sur la mort comme celui-ci. « Voyez-vous, la mort, c'est une question d'habitude. » Un jour que Madame Locotel était venue déposer des fleurs sur une tombe, il s'obstina à lui faire les honneurs de son monument. « Si vous aviez voulu, » lui dit-il en poussant un soupir de regret. Il lui montra, dans l'enceinte enfermée par la rampe de fonte, les petites plates-bandes contournées, serpentant, plantées de jeunes arbres verts. Et c'était aussi sur le sable jaune, d'étonnants cœurs bordés de buis, des croix de pyrêtre, des ostensoirs de géranium. Déjà, un saule versé sur la pierre vide, ses longs pleurs grêles. C'est gentil, n'est-ce pas ? C'est simple. Et ça, tenez, lisez ça. Gravement, il désigna l'inscription gravée en lettres rouges sur la table funéraire. Ici repose le corps de M. Joseph Hippolyte Elfège Roch, maire de Pervenchère, suppléant du juge de paix, etc., etc., décédé dans sa point de suspension année, le point de suspension 18 point de suspension. Priez pour lui. Je l'ai rédigé moi-même, fit-il. Maintenant, on n'a plus qu'à remplir les blancs. Et en revenant à sa première pensée, il répéta d'une voix élégiaque. Si vous aviez voulu, il y aurait eu deux noms et deux places. Puis il regarda d'un air attristé et méprisant les tombes délaissées, les petites croix de bois qui se penchaient, disjointes et pourries, sur des fleurs fanées, et il murmura en haussant les épaules. « Enfin, vous n'avez pas voulu. Quant à moi, je suis sûr que mes héritiers ne me laisseront pas sans une sépulture convenable. Et c'est quelque chose. Allez !» Monsieur Rock, seul, confectionna son cercueil. Le bois en fut par lui méticuleusement choisi. Parmi de nombreuses planches en cœur de chêne très sèches, très solides et très marquées de veines. De temps en temps, il l'essayait devant le secrétaire de la mairie et la mère Sébron, appelée à donner leur avis. Quant à lui, il se réjouissait de s'y sentir serré et d'y avoir pourtant les mouvements libres et aisés. Durant cette période d'activité bizarre, M. Rock demeurait gai, d'une gaieté presque bon enfant. En varlopant son bois, il lui arrivait même de chanter et de siffler des airs de sa jeunesse. S'abstenant toutefois des plaisanteries macabres et de mauvais goût. Sa force d'âme ne se démentait pas une seconde. Il ne sermonnait plus son fils dans ses lettres, pleines de récits municipaux, de nouvelles de son monument, d'aperçus sur la mort d'un calme stoïque. Puis, quand ce fut fini, tout d'un coup, il fut pris d'un vague à l'âme, auquel succéda bien vite une véritable détresse morale. La peur de mourir l'envahit. Il ne pouvait plus se promener dans son terrain, autour de sa tombe, sans être assailli de terreur. Il rentrait chez lui très pâle, se trouvait malade au moindre froissement de ses muscles, envoyait chercher le médecin, se réveillait la nuit baigné de sueur froide, en proie à des affres affolantes. Il se réfugia davantage dans sa mairie et, pour écarter la funèbre hantise, il cribla Pervenchère d'arrêts inédits et de centimes additionnels.